Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un hommage national à Jean-Paul Belmondo, après-demain aux Invalides. Dans ce journal, les mots de Jean Dujardin pour son idole, c'était ce matin. Dégagés des manifestations anti-talibans ce matin à Kaboul, des femmes notamment. Ils répondent par des tirs de sommation, mais les défilés continuent. Nous irons sur place. Journée de manif aussi au Brésil. Le président Bolsonaro, en chute dans les sondages, en conflit avec la Cour suprême, mobilise ses troupes. Cela pourrait virer à l'affrontement entre pro et anti. Qu'attendre du procès des attentats du 13 novembre? Ouverture demain. Question à nos invités à 13h30. J'attends les vôtres. Deux questions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Avec nous Aurélia Gilbert, rescapée de l'attentat au Bataclan et partie civile au procès. Et Sarah Guibaudot et Sophie Parmentier de France Inter. Les fractures françaises. C'est le sondage d'Ipsos Soprasteria régulièrement. Les principaux enseignements en cette rentrée. Défiance à l'égard des partis et dans une moindre mesure de la démocratie, le retour partiel du clivage droite-gauche, l'environnement, deuxième sujet de préoccupation après le Covid, le pass sanitaire largement accepté. Mathieu Gallard d'Ipsos sera avec nous. Dans l'actualité encore, les Bleus vont-ils enfin gagner? Éliminatoire du mondial de foot face à la Finlande. Pénurie de chauffeurs de car, c'est un problème pour le transport scolaire. Isabelle Carré au cinéma demain, elle est dans C'est une chanson. Et puis la météo bien chaude de ce mardi après-midi, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Ce ne sera pas à la Madeleine comme pour Johnny, ce sera aux Invalides comme pour Aznavour. Hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Ce sera après-demain, jeudi.
Oui, hommage national. L'Élysée l'a fait savoir ce matin à 8h en accord avec la famille. Hommage national, de quoi s'agit-il précisément? Car tout est codifié, ce ne sont ni des obsèques ni un deuil national. C'est une cérémonie réservée aux militaires et aux personnalités qui ont eu un rôle exceptionnel. On l'inscrit au journal officiel, c'est un décret présidentiel. Et on l'organise soit au Panthéon, soit aux Invalides. Ce sera donc les Invalides, avec discours, éloge funèbre du président devant le cercueil du défunt orné d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Il faut savoir que Jean-Paul Belmondo, de son vivant, a été distingué deux fois par deux présidents. Emmanuel Macron lui a remis en novembre 2019 les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Et François Hollande, avant lui, dans les derniers jours de son quinquennat, l'avait fait grand officier de l'Ordre national du mérite. Ce type d'hommage, Bruno, est rarissime quand il s'agit de personnalités civiles. On peut citer le commandant Cousteau, l'abbé Pierre, et plus récemment, vous en parliez dans la catégorie artiste, Charles Aznavour, discours aux Invalides, c'était en octobre 2018.
Parce qu'en France, les poètes ne meurent jamais. Vive la République! Vive la France.
On ne sait pas encore tout du déroulé de cette journée, si ce sera le matin ou l'après-midi. Il devrait y avoir un écran géant installé devant, du public dans la cour des Invalides. L'Élysée se coordonne en ce moment avec la famille, car il y a aussi la partie privée. Y aura-t-il un lieu dédié à l'hommage populaire, comme cela avait été le cas pour Johnny en décembre 2017? Jean-Paul Belmondo, qui n'était ni un acteur ni un passionné de la vie politique, il en parlait pas ou peu, mais quand même, parmi ses toutes dernières prises de position, on retiendra qu'en 2017, il assumait publiquement d'avoir voté, je le cite, contre Marine Le Pen et contre tous les extrémismes.
L'hommage national jeudi, l'hommage aussi d'un proche, parfois présenté comme l'héritier de Jean-Paul Belmondo. Jean Dujardin a ressenti hier soir le besoin d'appeler les copains, de parler de Bébel, d'échanger des répliques, des extraits de films. Il aurait aimé qu'on mange ensemble, qu'on boive un limoncello, qu'on parle de cinéma, qu'on fasse les cons, dit Dujardin. Qui racontait ce matin à nos confrères de BFM dans quelles circonstances il avait rencontré Belmondo?
C'était un très joli cadeau de mon grand pote Antoine Duléry. Je tournais au SS 117 en 2004. Et il me dit un soir, viens à la maison, viens manger à la maison. Et j'ouvre la porte et je tombe sur Jean-Paul Belmondo dans le canapé, comme ça, qui me sourit. C'était le Graal, c'était l'aboutissement. C'est l'homme que je voulais, que je devais rencontrer, quoi. Il m'a fait des choses extraordinaires. Je me souviens d'une fois, il recevait la Légion d'honneur en Belgique. Et puis, il était très ému. J'étais monté sur scène, d'ailleurs, pour faire une petite bafouille. Il avait lâché une larme, ce qui arrive assez rarement. Et quelques mois après, on me fête mon anniversaire dans les bois, paumé dans les Cévennes. J'entends la musique de Magnifique. Je dis, tiens, c'est le Magnifique. Et je vois arriver Jean-Paul Belmondo, avec sa canne, du fond des bois. Il attendait depuis 2 heures. Je me mets évidemment à pleurer. Et il me dit, un partout. Et je crois que tout le monde a pleuré en fait à ce moment-là, parce que c'est vrai que dès qu'il y avait une angoisse, dès qu'il y avait un doute, il suffit de l'appeler en lui disant je pense à toi, comment t'aurais réagi? Voilà, comment t'aurais réagi? Il fait, oh là là, puis si tu savais, passe au-dessus, vas-y, vas-y. On perd un guide, La mort, ça va pas vraiment à grand monde, mais certainement pas à Jean-Paul Belmondo, quoi.
Les mots très touchants de Jean Dujardin pour Jean-Paul Belmondo ce matin. Et nouvelle page consacrée à l'acteur. À la fin de ce journal, nous irons à Villerville, la ville d'un singe en hiver. Et puis, regard sur les années René Château de la carrière de Bébel. L'actualité à l'étranger pour l'instant est le premier coup de semonce pour les talibans depuis qu'ils ont pris le pouvoir le 15 août. Des manifestations importantes à Kaboul ce matin, au moins 4, alors que des milliers de personnes souhaitent toujours quitter le pays. Pour France Inter, Wilson Fache est sur place. Vous allez entendre l'ambiance derrière sa voix. Il raconte la matinée à Franck Madvon.
Il faut imaginer cette femme qui devait avoir 18 ans, je pense, et qui pointe du doigt un commandant taliban et qui lui hurle de dégager. Il faut voir ce courage, il faut le voir. Le niveau de désespoir aussi qui pousse ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à se mettre en danger face à la répression féroce des talibans. Alors ces manifestations, aujourd'hui, le point de départ, c'était l'ambassade du Pakistan. Et puis on a vu partout en ville d'autres petites manifestations, des hommes, des femmes qui hurlaient « Je veux ma liberté, je veux ma liberté ». Hurlait un homme à en mourir presque, il était à genoux. Les, toutes ces manifestations que j'ai pu voir semblaient spontanées et en même temps avaient lieu toutes au même moment à différents endroits de Kaboul.
Et après cette description, question posée par Franck Madvon à Wilson Fache. Quelle réaction des talibans ?
J'ai eu l'impression que les talibans étaient complètement dépassés par la situation. À l'ambassade du Pakistan, par exemple, il y avait une centaine de femmes. Il devait y avoir autant de combattants talibans qui nous poussaient, nous, les journalistes, pour qu'on ne puisse pas parler à ces femmes. Il y a eu beaucoup de tirs de sommation, des balles perdues, notamment même ici, dans ma chambre d'hôtel. Il y a 2 impacts de balles dans la vitre, 4 impacts de balles dans le plafond de ma chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment le chaos, avec des tirs de sommation un peu partout, et pourtant des gens qui continuent à manifester. C'est-à-dire qu'après que les femmes, le groupe de femmes ait été bouté dans l'ambassade du Pakistan, eh bien, ils ont continué à crier et à marcher en rue à travers Kaboul.
Wilson Fache depuis Kaboul ce matin avec Franck Madvon. Selon le chef de la diplomatie américaine, les talibans promettent à nouveau qu'ils laisseront partir les Afghans qui veulent quitter le pays. Nous les attendrons sur cette question, dit Anthony Blinken depuis le Qatar, pays qui joue un rôle diplomatique clé depuis l'accession des talibans au pouvoir. Journée de manifestation aussi au Brésil et de fête nationale. Va-t-elle tourner au chaos ? Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour.
En chute dans les sondages, en conflit avec la Cour suprême qui enquête sur lui, le président Jair Bolsonaro appelle ses partisans à défiler, mais ses adversaires descendent aussi dans la rue. Il est 8h07 à Brasilia, mais les pro-Bolsonaro ont déjà annoncé la couleur ces dernières heures, Olivier.
Oui, dès hier soir sur l'esplanade des ministères, lieu hautement symbolique pour la démocratie brésilienne, des dizaines de partisans pro-Bolsonaro ont forcé le cordon de police chargé de protéger le périmètre. Ils sont entrés, hurle l'auteur de la vidéo. Regardez cette police qui est incapable de protéger sa population. Demain, c'est la Cour suprême que nous envahirons, ajoute ce manifestant totalement survolté. Encerclé par la foule, un policier débordé est obligé de sortir son arme. Une file de poids lourds s'engage sur l'esplanade, sur les pare-brises. Dehors le communisme, message directement adressé au Parti des Travailleurs de l'ancien président Lula, très certainement futur candidat l'an prochain contre Bolsonaro.
On peut parler, Olivier, de révolte contre les institutions ?
C'est en tout cas ce que souhaite Jair Bolsonaro, qui a menacé ces derniers mois d'annuler l'élection présidentielle de 2022 si le Congrès n'approuvait pas ses réformes. Au cœur de l'été, il a organisé un défilé militaire d'une ampleur inédite à Brasilia. Dans chacune de ses interventions en public, il laisse planer de plus en plus clairement un parfum de coup d'État pour conserver le pouvoir. Et très récemment, il a d'ailleurs estimé qu'il ne lui restait que 3 options. La prison, vaincre ou mourir, en précisant que le premier scénario n'était pas une option pour lui.
Merci Olivier Poujade. Voilà pour le Brésil. En Europe, la Pologne est régulièrement dénoncée pour le manque d'indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir depuis que le parti Droit et Justice dirige le pays. La Commission européenne durcit le ton ce mardi. Elle demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'ordonner des sanctions financières contre la Pologne. Fracture française, c'est un coup de sonde régulier dans l'opinion réalisé par l'Institut Ipsos Sopra Steria avec le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. Un peu moins de 1000 personnes interrogées cette année entre le 25 et le 27 août. Et des résultats, à vrai dire, je trouve difficiles à interpréter. Heureusement, Mathieu Gallard est avec nous, il va nous aider. Bonjour Mathieu Gallard.
Bonjour.
Directeur d'études chez Ipsos, je voudrais d'abord camper, disons, le climat politique. 32% des personnes interrogées, alors je sais que ça n'est pas nouveau, mais tout de même, 32%, un tiers de l'opinion pense que d'autres systèmes politiques que la démocratie peuvent être aussi bons. Démocratie irremplaçable, donc pour 68% de l'opinion. Un tiers, ça me semble énorme.
Bah, c'est énorme, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on mesure depuis plusieurs années. Et finalement, on a quand même vu au cours des deux ou trois dernières années qu'il y avait dans toute une partie de l'opinion française, effectivement, des courants qui n'étaient peut-être pas antidémocrates, mais qui, en tout cas, rejetaient le système actuel de démocratie représentative. Donc oui, c'est beaucoup, mais en même temps, ça n'est pas non plus une surprise totale, je pense.
Pas une surprise, la désaffection pour les partis. 16% des personnes interrogées font confiance aux partis. Et vous avez testé ce qu'on appelle la capacité des partis à gouverner, en tout cas telle que le ressentent les personnes interrogées. En tête, LR, 53%. En queue de classement, Europe Écologie Les Verts, 26%. Derrière le Rassemblement National qui est à 34%. C'est important de poser ça au début d'une année électorale.
Oui, effectivement, on a un certain nombre de partis bien ancrés qui ont gouverné au cours des années récentes ou qui gouvernent actuellement, ouais. LREM, qui de ce point de vue-là sont plutôt bien jugés. C'est vrai que les partis qui n'ont jamais accédé au pouvoir, on pense au Rassemblement National ou à l'ELV, au niveau d'ailleurs national comme au niveau, on va dire, par exemple, de grandes régions, ouais. Ceux-là sont vraiment handicapés sur cette question de compétences et ça va incontestablement pour eux être un handicap au cours de l'année électorale à venir. Ça l'a d'ailleurs été pour Marine Le Pen en 2017. On se rappelle que dans l'entre-deux-tours, la question de la compétence était pour elle très problématique.
Alors avant d'en venir au clivage droite-gauche qui est un des faits saillants de votre étude, passe sanitaire, test payant, obligation vaccinale pour les professionnels de santé, l'opinion suit largement le gouvernement sur tous ces sujets, en précisant que le Covid est le sujet de préoccupation numéro un.
Oui, tout à fait. Le Covid reste le sujet de préoccupation numéro un des Français, donc c'est effectivement important d'avoir ça en tête. On verra au cours des prochains mois si ça reste le cas. Et effectivement, les Français, aux alentours des deux tiers, sur la plupart de ces dimensions que vous venez de citer, sont plutôt derrière le gouvernement. Malgré tout, il y a quand même une minorité non négligeable, qui en revanche rejette tous ces différents éléments. Et on voit par exemple que sur le pass sanitaire, on a 37% des Français qui nous disent que pour eux, c'est assimilable à une dictature, une forme de dictature sanitaire. Donc on voit que oui, il y a un accord avec le gouvernement, mais néanmoins, pour toute une partie de l'opinion minoritaire, mais loin d'être marginale, il y a un vrai rejet.
Dictature sanitaire, ce mot qu'on entendait dans les manifestations. Alors, clivage gauche-droite, oui ou non, est-ce qu'il revient, ce clivage? La plupart des personnes que vous interrogez vous disent quand même, majoritairement, qu'il ne lui apporte plus de crédit ou de sens, qu'il ne fait plus sens pour eux. Posons ça d'abord.
Tout à fait, il y a un rejet du clivage gauche-droite, enfin un rejet, en tout cas le sentiment que ça n'est pas un clivage qui a beaucoup de sens aujourd'hui.
Une grille pertinente.
Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années, des décennies en fait, donc ça n'est pas du tout une nouveauté. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une remontée de la pertinence de ce clivage. On a aujourd'hui 38% des Français qui nous disent que ce clivage est pertinent. Il y a encore 3 ans, ils étaient seulement 24%. Et c'est cohérent, par exemple, avec les résultats électoraux des élections municipales de 2020, des élections régionales et départementales de juin dernier, où on a vu un retour des partis traditionnels, Parti Socialiste, Les Républicains. Après, voilà, on verra si, au cours de l'année électorale à venir, ça se confirme.
Et puis, il y a des sujets sur lesquels ce clivage est réel. Quand vous interrogez les personnes sur le rapport à l'islam, le rapport à l'immigration, le rapport aux étrangers, rapport aux inégalités aussi, il y a un clivage droite-gauche très net dans les réponses.
Oui, sur tous ces sujets, toutes ces dimensions que vous venez de citer, globalement, plus vous êtes à gauche, plus vous êtes, on va dire, ouvert sur l'immigration, sur les différentes minorités, plus vous êtes en faveur de politique qui vise à réduire les inégalités. Et au fur et à mesure, plus vous êtes centriste, à droite, à l'extrême droite, plus vous y êtes hostile. Donc ce clivage gauche-droite classique, finalement, il reste pertinent sur toute une série d'enjeux importants pour les mois et l'année électorale à venir.
Avec des sympathisants LR et RN qui se rapprochent sur ces positions-là, est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française? Seulement 28% des sympathisants LR disent oui, 17% des sympathisants RN.
Oui, tout à fait, mais il y a là encore toujours eu finalement, enfin toujours eu, en tout cas depuis on va dire 5 ou 6 ans, une assez grande proximité des électorats de droite et de droite disons radicale sur ces sujets d'identité, d'immigration, de minorités religieuses. Après, la difficulté, et ce qui explique pourquoi malgré tout, bah voilà, l'électorat par exemple, les Républicains ne basculent pas massivement vers un vote pour le Rassemblement National, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour une grande majorité de l'électorat LR, il y a le sentiment que le Rassemblement National n'est pas compétent, n'est pas en situation de diriger le pays.
Merci Mathieu Gallard d'être venu dans les studios de France Inter. On a donc posé le contexte en termes d'opinion. L'actualité politique, c'est la fin à Angers des journées parlementaires de La République En Marche. Angers, ville du maire Christophe Béchu, un proche d'Edouard Édouard Philippe. Mais c'est l'actuel Premier ministre et chef de la majorité, Jean Castex, qui est passé voir les troupes en cette rentrée d'année électorale. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
L'objectif est de motiver tout le monde avant la campagne.
Oui, il n'était là que pour une chose, le Premier ministre, dorloter ses marcheurs secoués par les incessants procès en amateurisme et en soumission.
Je veux le dire ici, les chaussures des parlementaires En Marche et de leurs alliés ne sont pas des godillots.
Ces députés qui avaient le moral dans les chaussettes, il faut le dire, il y a encore quelques mois. L'épidémie recule, l'économie repart, les voilà tout sourire et bronzés en cette rentrée. Les deux tiers sont bien décidés à se représenter, assurent désormais les cadres de la majorité, remobilisés par cette campagne qui a déjà commencé.
Les oppositions feront leur travail, mais avec encore un peu plus de détermination, parfois de provocation, face à la facilité et à la démagogie. Ne soyons pas naïfs et restons unis.
Et pour assurer cette unité, rien de tel que de taper sur ceux qui sont partis. Cette cinquantaine de députés qui a trahi attaque Christophe Castaner, le patron du groupe à l'Assemblée.
On ne peut pas se présenter avec la photo du président de la République, lui faire campagne contre lui. C'est mentir aux Français et à ses collègues. C'est faire preuve d'irrespect envers ses électeurs. Et quand je dis cela à Angers, ce n'est pas totalement par hasard.
Tacle appuyé au député local Mathieu Orphelin, passé chez Yannick Jadot. Amabilité, appel à l'unité et 1 million de tracts distribués dès ce week-end. On serait dans une start-up, Bruno. On appellerait ça un team building.
C'est noté, Simon Le Baron, en direct d'Angers avec Céline Guéribi pour France Inter. L'actualité politique, c'était aussi le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg, invité d'Inter ce matin. Vous pouvez réécouter ça sur franceinter.fr. Voilà une mauvaise surprise, quelques jours après la rentrée scolaire. Parmi les secteurs où, localement, on manque de main-d'œuvre, il y a les autocars, le transport, au point qu'ici ou là, la fréquence des liaisons pour le transport scolaire doit être diminuée. C'est le cas à Aix-en-Provence et en Bretagne aussi. Il manque plus de 350 conducteurs dans les entreprises de transport bretonnes, 40% en Ille-et-Vilaine. Le métier, à temps partiel, matin et soir, n'attire plus. Et c'est une situation critique pour les patrons autocaristes avec qui vous avez échangé, Maxime Glorieux.
La reprise du tourisme se fait attendre, alors Stéphane Duboulet a misé sur le transport scolaire. Le gérant d'ADS Voyage a obtenu 12 lignes, mais problème, 4 sont à l'arrêt, faute de conducteurs.
J'ai fait une réunion de pré-rentrée, j'en ai 3 qui ne se sont pas présentés. Tu les appelles, ça ne répond pas, tu tombes sur la messagerie, on n'a pas de nouvelles. Alors qu'à côté de ça, on a fait des formations tous ces derniers mois, là. Ils ont eu leur permis et puis volatilisé.
Jusqu'à 7000 euros pour chaque formation, financée par le patronat.
C'était une aberration quelque part pour moi, parce que j'ai failli à ma mission. Le problème, c'est que j'ai essayé de me rapprocher des transporteurs plus gros et en fait, personne n'a pu m'aider parce qu'ils sont dans les mêmes problèmes que moi.
Chez l'entreprise Transdev, une trentaine de salariés ont claqué la porte depuis le mois de juin. Parmi eux, beaucoup de reconversions suite à la crise sanitaire, selon Odelaine Bertrand, la directrice.
Cette augmentation, elle est surtout le reflet d'envie de changement, d'envie d'ailleurs, couplée à une reprise économique et donc d'autres secteurs qui recrutent. En attendant, évidemment, il y a le système D, des conducteurs qui vont réaliser plusieurs lignes avec parfois des retards.
Des cadres ont pris le volant. C'est le cas aussi chez de nombreux concurrents. Un problème de recrutement national, rappelle le réseau de transport public Bresgo, avec toujours plus d'élèves pris en charge en Bretagne.
Voilà pour le récit de Maxime Glorieux, France Bleu Armorique. La campagne pour la troisième dose, la dose de rappel de vaccin, a bel et bien commencé. Déjà 120 000 doses injectées, 30 000 pour la seule journée d'hier. Ce sont les chiffres donnés ce matin par la Direction Générale de la Santé. Dans les lycées, première et deuxième dose. Le vaccin arrive, la campagne commence dans les lycées parisiens. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, la caravane, en quelque sorte, fait le tour des établissements, des centres de vaccination éphémères, des médecins et pompiers pour une piqûre entre deux cours ou à l'heure du déjeuner. C'était hier à Monistrol-sur-Loire, près de Saint-Étienne. Une cinquantaine d'élèves se sont fait vacciner sur le millier que compte l'établissement, David Valverde.
Et il y a notamment Sarah, élève de seconde. Si elle avait vraiment pu choisir elle-même, elle ne serait pas venue recevoir sa première dose.
Mais en fait, c'est pas vraiment mon choix. Mes parents, ils m'obligent à faire un sport chaque année. Là, je fais de la boxe. Du coup, j'étais obligée d'être vaccinée. Dans ma famille, personne ne veut se faire vacciner. Du coup, la plupart des gens qui ont été vaccinés, c'était par obligation aussi.
Mais quelle que soit la raison, une vaccination de plus, c'est toujours ça de prix pour le préfet de Haute-Loire, Éric Etienne.
Il faut pas faire la fine bouche. Si c'est pour retrouver une vie normale, culturelle, sportive, en salle, du cinéma, eh bien, c'est toujours une bonne raison.
Mais il y a toujours les interrogations qui subsistent, notamment sur les effets possibles de la vaccination. Emma est en première.
J'espère pas sentir et aussi avoir des effets après. J'espère que ça ira. Parce que je connais des personnes qui avaient mal au bras, qui étaient fatiguées. J'espère qu'il n'y aura rien.
Et pour Clara, en terminale, gros problème.
J'aime pas les aiguilles.
Bon allez, même si c'est un mauvais moment à passer, elle paraît convaincue tout de même que la vaccination lui facilitera la vie.
Maintenant j'approche des 18 ans et je sais que le pass il est obligatoire pour ceux de 18 ans. Du coup je préfère me faire vacciner maintenant, comme ça c'est fait.
Et vu la réussite du dispositif à Monistrol, la préfecture, l'ARS, l'inspection académique et les pompiers négocient actuellement pour renouveler l'opération dans d'autres lycées ou collèges de Haute-Loire.
David Valverde, France Bleu, Saint-Étienne, Loire. Le nombre de malades du Covid continue de baisser légèrement en France, mais la pression hospitalière reste forte dans les Bouches-du-Rhône, en Martinique et en Guadeloupe, même si en Guadeloupe, le pic des hospitalisations est passé, selon le directeur de crise du CHU. Nous parlions il y a quelques jours dans ce journal des vendanges 2021 qui s'annoncent très mauvaises, peut-être les plus faibles en quantité des 20 et 21e siècles, nous disait le président du syndicat des vignerons indépendants. Eh bien, pour les céréaliers, toute autre ambiance. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
La fin d'été pour eux est ensoleillée, le bilan des moissons est bon.
Et oui, et contre toute attente, parce qu'on a beaucoup parlé des pluies incessantes de cet été et de ces grains gorgés d'eau. Et pourtant, globalement, hein, les rendements en tonnes à l'hectare sont bons. Et les prix de vente aussi, parce que la production mondiale est en baisse. Alors, pour la première fois depuis 8 ans, annonce Éric Thérouin, le président de l'Association Générale des Producteurs de Céréales, le revenu est en hausse.
On était à 6 000 euros annuels, donc ça veut dire un demi-SMIC mensuel pour l'ensemble des céréaliers ces 8 dernières années. Et cette année, on estime qu'on sera, on avoisinera autour de 2 SMIC mensuels. Donc c'est un millésime plutôt encourageant cette année, mais on reste prudent sur la suite.
Prudent parce qu'encore une fois, ça ne doit pas faire oublier ces milliers d'hectares inondés cette année dans l'Aisne ou encore la Marne. Mmh. Alors les céréaliers réclament d'urgence la mise en place, promesse du gouvernement, d'une assurance récolte.
Les agriculteurs, en fait, sont les premières victimes du réchauffement climatique, parce qu'on dépend vraiment du climat. Maintenant, on attend les actes. On attend qu'effectivement, dans la loi de finances, d'une manière ou d'une autre, les choses soient actées avec un budget qui permette de faire cette modification d'assurance et couvrir l'ensemble des agriculteurs.
Voilà, les céréaliers qui s'inquiètent déjà d'une hausse importante de leurs charges, plus 25% sur les engrais, plus 35% sur les carburants, hausse qui pourrait impacter leur prochaine campagne.
Merci Manuel Ruffez. Avant de faire un dernier clin d'œil à Jean-Paul Belmondo dans ce journal, la une de l'équipe ce matin, peur sur la ville. À vrai dire, cette affiche-là n'était pas prévue. L'image qui accompagne le titre, ce n'est pas celle de Bebel, mais Pogba, Griezmann, Benzema, les Bleus en plein doute, à quelques heures d'un nouveau match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors certes, ils sont en tête de leur groupe avec 4 points d'avance sur la Finlande, mais ils ne gagnent plus. 2 matchs nuls après un euro fort décevant. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Bruno.
En direct de Lyon, où se tiendra le match contre la Finlande, justement. C'est le moment ou jamais, Cédric, de briller pour Benzema, dont on a tant parlé du retour en bleu cet été, dans la ville qu'il a vu naître et devenir star. Il est très attendu.
Oui, même si c'est toute l'équipe de France, hein, Bruno, qui est attendue ce soir, il y a beaucoup de regards braqués effectivement sur Karim Benzema, de retour dans sa région natale, puisqu'il est originaire de Bron, c'est une ville limitrophe de l'est de Lyon. Et Benzema qui a passé 4 ans à l'Olympique Lyonnais entre 2005 et 2009. Alors, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui à cette époque-là, mais il a marqué quand même 66 buts en 148 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Aucun de ces buts n'a été inscrit, il faut le savoir, au Groupama Stadium, où le match aura lieu ce soir. Il n'a jamais joué là-bas. Lui, c'est plutôt un enfant de Gerland, l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais. Benzema qui en est à 31 buts en équipe de France et ce qui espère effectivement, Bruno, augmenter ce total ce soir et contribuer au réveil de l'équipe de France.
Alors Benzema, c'est l'attaque des Bleus. Cédric, autre sujet de préoccupation pour Didier Deschamps, la défense qui n'est pas vraiment imperméable.
On prend beaucoup trop de buts chez les Bleus en ce moment. 8 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Et en plus, eh bien, les Français concèdent à chaque fois l'ouverture du score. Donc, ils se mettent un handicap et c'est plus difficile pour eux derrière. Alors, Raphaël Varane, ménagé en Ukraine samedi, sera de retour dans le 11 titulaire. Kimpembe, qui est en difficulté actuellement, devrait lui être sur le banc. Mais on le sait, Bruno, la France de Didier Deschamps, eh bien, elle a longtemps basé sa force sur sa capacité à bien défendre. On se souvient notamment que c'était l'argument phare des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ce n'est plus le cas en ce moment et ça explique en partie eh bien, la passe difficile traversée par l'équipe de France qui reste sur 5 matchs nuls d'affilée et qui n'a plus gagné depuis son match face à l'Allemagne à l'Euro lors de la première journée de l'Euro.
France-Finlande, stade de Décines, coup d'envoi à 20h45 ce soir et Cédric Guillou pour suivre tout cela. L'équipe consacre 8 pages au Belmondo amateur de sport ce matin. Autre point commun entre Bebel, on y revient,
et le journal Antoine Blondin, longtemps l'une des plumes du quotidien sportif et auteur de ce roman Un singe en hiver, adapté par Henri Verneuil au cinéma, dialogue Michel Audiard, l'un des classiques de Belmondo, le duo avec Jean Gabin. Alors ce mardi, nous avions envie de retourner dans le café de Villerville, Tigreville dans le film, où les deux retrouvent le plaisir de l'ivresse. Thibault Lefebvre est sur place pour France Inter, effervescence depuis hier soir dans le village.
Il y a deux sujets de discussion ici, l'été qui se prolonge avec une météo exceptionnelle pour la Normandie, et bien sûr Bébel, Belmondo et ses beuveries légendaires du singe en hiver. Ça se passait notamment dans un petit bar resté dans son jus, le cabaret normand qui depuis ce matin est la principale étape du pèlerinage des fans.
Tout le monde le connaît, singe en hiver. Donc voilà, on est venu voir la petite maison et faire des photos.
Patricia et son compagnon Michel ont changé hier soir leur programme de vacances.
Ça fait quelque chose quand même de voir en vrai déjà là où il a tourné ce film. Et puis il y a de l'animation dans le village, c'est agréable.
C'est émotionnel, car c'était un acteur très aimé.
Il y a le décor, bien sûr, l'hôtel Stella ou l'église qui n'ont pratiquement pas changé depuis le tournage du film. Et puis la mémoire vivante.
J'avais 20 ans alors, j'ai lui papillonné autour.
Vous papillonniez autour de Jean-Paul Belmondo.
Non, pas moi. D'autres personnes que tu mieux crois.
Tous ces figurants, comme Denise, 92 ans, et sa voisine Monique, recrutée dans le village, et qui, plus que l'acteur, se souviennent de l'homme.
Belmondo a mis le feu au village tellement il était gentil. Il allait jouer au foot dans la cour de récréation avec les écoliers. C'est vrai, c'est dur. Hein.
Et pour marquer le coup, une rue, la digue ou le petit escalier qui monte au bourg pourrait, dans les prochains mois, prendre le nom de Jean-Paul Belmondo.
Thibault Lefebvre à Tigreville. Et si, comme les Normands, la presse rend hommage à Belmondo ce matin, ses relations avec la critique n'ont pas toujours été fluides. Souvenez-vous de ce moment de sa carrière. Arrêtons-nous là-dessus. Mai 74, Cannes, Stavisky, le film de René, accueille Glacial, Belmondo fâché. Et c'est un moment où, après les années nouvelle vague et ce froid avec la presse, il décide d'un tournant dans sa carrière. Il se tourne vers le producteur René Château. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
C'est là que Bébel va émerger.
Ah oui, René Château, ancien attaché de presse de Belmondo, devenu son associé. C'est lui qui va façonner l'image très marketée du Bébel des années 70 et 80. De Peur sur la ville à l'As des As, en passant par Le Professionnel et Le Marginal, l'homme de confiance de l'acteur va tout contrôler, à commencer par les bandes annonces calquées sur celles des blogs Busters hollywoodien.
Quel genre de type je suis d'après toi?
Le genre aventurier.
Et c'est quoi un aventurier?
D'Artagnan, Zorro.
Pour en faire une superstar, René Château orchestre la rareté de Belmondo dans les médias, il commercialise des produits dérivés et il conçoit les affiches des films où le comédien apparaît systématiquement dessiné et non photographié. René Château fait aussi modifier les titres des films de Bébel. Ainsi, Mort d'une bête à la peau fragile devient Le Professionnel. Et connaissez-vous, Bruno, le titre original du Magnifique?
Non.
Comment détruire la réputation du plus célèbre agent secret?
C'est un plus peu long plus long, sur l'affiche,
voilà.
Ouais.
Toujours la même recette pour les films du duo. Belmondo, Château, des cascades, de l'humour, de la drague, des personnages de flics ou de justiciers écrits par Michel Audiard et des réalisateurs interchangeables réduits à un rôle d'exécutant tout l'inverse de la nouvelle vague. Mais cette recette fait recette, 4 millions d'entrées en moyenne. En 84, pourtant, c'est la rupture. Il faut dire que la formule élaborée par René Château commençait à faire pchit, comme le résume très bien Claude de sauter avec cette phrase « Belmondo est un acteur devenu cascadeur ».
Belmondo, cinéma populaire et film d'auteur sur le compte Instagram de Paul, son fils ce matin. Très belle image du père sur le voleur de Louis Malle, moustache fine, noir et blanc, col cassé. France 2 ce soir rend hommage aux deux Belmondo, Le Professionnel puis À bout de souffle. Et on peut réécouter évidemment Boomerang de ce matin, Bébel avec Augustin Trapenard. C'était une nouvelle diffusion d'une émission de 2016. Dans un instant, la météo très chaude de ce mardi, puis avec nos invités, qu'attendre du procès des attentats du 13 novembre. J'attends vos question 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir.
Le 26 mai 1964, un petit garçon de 11 ans, on le retrouve mort dans une forêt.
Philippe Jaénada.
Les journaux ne parlent que de ça. Il avoue, c'est lui, c'est l'étrangleur. Il s'appelle Lucien Léger. Il est infirmier psychiatrique, 41 ans de prison. Tous ceux qui interviennent dans ce livre sont bien plus monstrueux que lui. D'ailleurs, il écrit « Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». Sauf que moi, j'ai gratté un petit peu. Et évidemment, je suis à peu près certain qu'il était innocent.
Au printemps des monstres de Philippe Jaénada, à lire maintenant aux éditions Miel et Barreau.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
France Inter M.
Comme tu me veux, de Luigi Pirandello, mise en scène par Stefan Braunschweig, du 10 septembre au 9 octobre. Berlin 1928. Une danseuse de cabaret est reconnue dans la rue. Serait-elle Lucia, disparue pendant la guerre en Italie? De retour dans sa famille, chacun voudra croire en sa vérité, entre imposture et amnésie. Stefan Braunschweig poursuit son enquête théâtrale sur l'identité et ses jeux de miroir. Comme tu me veux, à l'Odéon Théâtre de l'Europe, un spectacle France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
C'est l'été, Jean-Pierre Hameau.
Oui Bruno, hein, nous allons profiter d'un bon ensoleillement cet après-midi, excepté du côté du Languedoc-Roussillon, où les nuages bas auront bien du mal à se dissiper. Et puis par évolution diurne, prévoyez des averses en cours d'après-midi sur le relief des Alpes-Maritimes, de la montagne Corse et des Pyrénées-Orientales. Et attention à noter la progression d'un léger voile de nuages d'altitude entre la Bretagne et l'Occitanie, prémisse d'une aggravation orageuse pour la nuit prochaine et demain sur l'ouest du pays. Puis côté température, c'est la chaleur avec des valeurs comprises entre 29 et 36.
Il est 13h31.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Demain s'ouvre un procès comme il n'en a jamais existé en France, à la mesure des faits qui seront examinés. Les attentats du 13 novembre ont entraîné la mort de 130 personnes à Paris et Saint-Denis, 1300 blessés. Des 10 membres des commandos présents ce soir-là, seul un est toujours en vie, Salah Abdeslam, qui sera dans le box des accusés. Les autres ont été tués le soir même ou 5 jours plus tard à Saint-Denis, où ont déclenché leur ceinture explosive. 20 accusés tout de même à ce procès, 14 présents. Les autres sont présumés morts pour la plupart, en Syrie en particulier. 5 cadres de l'organisation État islamique notamment, car c'est aussi toute l'organisation qui a mené à ces attentats que les débats doivent éclairer. Alors qu'attendre de ce procès, ces 300 avocats, ces 8 mois d'audience, sa salle construite spécialement au palais de justice de l'île de la Cité. J'attends vos questions au 01 45 24 7000. Qu'attendez-vous, vous, de ces 8 mois? Et question à nos invités. Bonjour Aurélia Gilbert.
Bonjour, merci de me recevoir.
Rescapé du Bataclan, partie civile, merci de venir en studio. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Rédactrice en chef du 13-14 après de longues années au service police-justice et surtout pour aujourd'hui autrice du podcast de référence sur ces attentats 13 novembre. L'enquête qu'on trouve toujours sur franceinter.fr et sur les plateformes. Et bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
Qui nous fera vivre avec Charlotte Piré ce procès tout au long des 8 mois. Aurélia Gilbert, où étiez-vous le 13 novembre?
Le 13 novembre, j'étais au Bataclan avec 3 amis. Je suis restée cachée quasiment jusqu'à l'assaut et l'intervention de la BRI. J'ai été libérée par la BRI vers minuit. J'ai malheureusement vu les gens tomber autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance car je n'ai pas été blessée physiquement ce jour-là. Mais j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des gens morts, j'ai vu ce qu'était la fosse, j'ai vu la barbarie et j'ai vu les auteurs de cet attentat.
Qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste des images difficiles, un chemin de reconstruction, quelque chose, comme je dis, qui fait certainement maintenant partie de ma vie, mais qui ne me définit pas et ne me définira pas. Sinon, ça voudrait dire qu'ils ont gagné et ils ne gagneront pas.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
J'attends qu'ils remettent la démocratie et l'état de droit là où ils ont voulu semer le chaos. Il y a aussi une volonté, l'attentat vous transforme en objet, ça vous chosifie, la volonté des terroristes.
Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire qu'un attentat, vous devenez une chose aux yeux des terroristes. Ils m'ont pas attaqué parce que je m'appelais Aurélia Gilbert, ils m'attaquaient au nom de la France. Mais c'est pas moi qui les attaquais, ni toutes les personnes qui ont été blessées ou qui sont mortes. Et vous devenez un objet, y compris même malheureusement dans la reconstruction, vous devenez un numéro pour l'administration. Même s'il y a des efforts de personnalisation. Et vous devenez ensuite ce que vous avez appelé les parties civiles, les victimes, qui représentent une masse. C'est pas vrai. Il y a autant de personnes, de chemins et de parcours que de victimes. Et le fait d'avoir ce procès qui revient, ça permet de redevenir sujet, de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie et de sa destinée en mettant le droit au milieu de notre histoire.
Et le fait de témoigner contribue à cela?
Alors témoigner, c'est une question que je me suis posée parce que je me demandais si j'étais plus légitime ou plus intéressante, certainement pas, que d'autres. Cette question de la légitimité, on est beaucoup à se la poser. Heureusement, mon avocat m'a dit qu'en fait, la multiplicité des angles et des histoires ne s'empilerait pas, mais permettrait de donner justement de l'humanité à ce qui est arrivé ce jour-là. Et j'espère permettre à la Cour aussi de comprendre tout ce qui est arrivé et l'impact que ça a eu dans nos vies.
Sarah Guibaudot, du point de vue de l'enquête, qu'est-ce qu'on attend de ce procès? Que reste-t-il au fond à apprendre de la préparation et de la commission des attentats?
Alors on a appris beaucoup de choses, l'enquête est gigantesque, ouais. On a dit 1 million de pages. Il y a forcément, comme dans toutes les enquêtes, des trous, des zones d'ombre que seuls les accusés peuvent combler, si tant est qu'ils le souhaitent. On sait que les préparatifs, la conception des attentats a commencé à peu près 1 an auparavant. On a fini par rassembler quelques pièces, donc c'est autour de petits les gros délinquants belges en lien avec des djihadistes en Syrie. Les gros délinquants, c'est par exemple les braqueurs, les frères El Bakraoui, qui sortent de prison fin 2014 et qui sont les cousins du commanditaire à Raqqa. Et puis les petits délinquants, c'est par exemple les frères Abdeslam qui fument des joints tout en regardant des vidéos de propagande djihadiste. Et dans ces petits groupes, il y en a qui vont faire un court séjour en Syrie comme Brahim Abdeslam, le grand frère, sans inquiéter tant que ça les services belges qui sont il est vrai, totalement débordés, qui ne les ont peut-être aussi pas pris au sérieux. Ces préparatifs, ils vont s'accélérer à l'été 2015. Il y a ces revenants qui traversent l'Europe avec la vague des migrants, il y a l'allocation des planques, les faux papiers, tout ça. Salah Abdeslam est accusé d'y avoir joué un rôle très important, mais par exemple, on ne sait pas exactement comment ils se sont procurés les armes, beaucoup d'armes quand même. Moi, je suis toujours interrogative de comment on peut se procurer autant d'armes, et ça, finalement, on ne sait pas très bien comment. Et puis, il y a toutes ces questions sur le 13 novembre lui-même, parce qu'il y avait des choses qui étaient conçues, préparées. Oui, on voulait attaquer une salle de concert. Bon, et puis, ils ont dû faire face à des imprévus et ils ont aussi improvisé. Et par exemple, il y a 2 membres de la cellule qui, le 13 novembre, sont à l'aéroport d'Amsterdam. Ça peut pas être un hasard. On sait que le groupe État islamique voulait frapper plusieurs villes. Pourquoi il s'est rien passé, on sait pas. Il y a Salah Abdeslam donc qui ne s'est pas fait exploser dans Paris. Voilà, il y a encore quand même pas mal de questions.
Salah Abdeslam qui jusque-là n'a rien dit, n'a coopéré en aucun cas.
Non, alors il s'était exprimé très brièvement lors de son interpellation en Belgique. Ouais. Ensuite, il s'est muré dans le silence. Il est passé, semble-t-il, par plusieurs phases. Et puis, on l'a vu à son premier procès en Belgique pour une fusillade, où là, il avait pris du poids, il s'était laissé pousser une grosse barbe et il avait un discours plutôt radicalisé et revendicatif.
Aurélia Gilbert, comment vous avez préparé ce procès ?
Alors, on a tous un chemin de reconstruction avec des étapes qui sont différentes selon notre personnalité, notre entourage et puis les traumatismes qu'on a subis. Moi, très tôt, je me suis intéressée au fond de l'affaire, à ce que vient de raconter Sarah, à ce que me transmettait mon avocat.
Vous avez suivi l'enquête?
Moi, j'ai suivi l'enquête comme je le pouvais, à travers soit les médias, soit ce qui était rapporté au dossier. J'ai lu avec beaucoup d'attention le réquisitoire définitif et l'ordonnance de mise en accusation, qui est un très bon résumé du dossier.
350 pages.
Oui, et qui est très bien fait. Et le travail qu'on fait le parquet, le juge d'instruction, est quand même admirable. C'est quand même grâce à eux, aux équipes d'enquêteurs, qu'on a un procès et qu'on a quand même on n'a pas de second couteau. Il faut savoir que dans ce procès, on pourrait dire entre guillemets la chance par rapport à d'autres
différences par rapport au procès d'il y a quelques mois.
Voilà, ou d'autres à venir. Oui. Je pense à Nice, oui. Où on a quand même pas que des seconds couteaux. Il n'y a pas que Salah Abdeslam. Mohamed Abrini a très certainement devait participer aux attentats, comme le disait Sarah. Il y a au moins 4 autres personnes qui devaient également être présente sur d'autres lieux d'attentat. Donc comment on s'y prépare? On fait de son mieux. D'abord, on s'entoure très bien de son avocat, ce que je recommande à tout le monde. Moi, je suis dans une recherche de vérité judiciaire. Ici, il va s'agir de juger les faits qu'on reproche à des hommes. Et c'est pas le moment de juger les responsabilités d'un État et tout. Un procès d'assises, c'est pas du tout ça. Donc il faut le savoir, s'y préparer pour pas avoir de déception. Et connaître aussi quelle est la place des parties civiles au milieu de tout ça. Quel est notre rôle et quelle est notre place au milieu de tout ça.
Vous êtes allé voir la salle ?
Oui, j'ai visité la salle lors des visites qui ont été organisées en juillet. En fait, je vous cache pas que c'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir été tiré, enfin la chance, comme n'importe quel citoyen, d'avoir été tiré au sort il y a quelques années pour être juré dans un procès d'assises, on va dire normal. Donc ça m'a permis de me familiariser avec les process, les grandes lignes. Mais là, on est dans une dimension qui est complètement différente. La taille de la salle, l'immensité, le nombre d'accréditations presse, le nombre d'avocats, c'est hyper impressionnant.
Alors, on a connu un autre procès géant, mais pas de cette dimension, c'est celui, évidemment, Sophie Parmentier, qui jugeait les faits après Charlie, après l'hypercachère. Est-ce qu'on a tiré des enseignements de ce procès-là aussi, très largement médiatisé, qui a duré, puis il y a eu des rebondissements à cause du Covid, pas seulement, mais à cause du Covid entre autres. On a tiré des enseignements de ce procès?
Alors, ce qu'on peut dire pour ce procès des attentats de janvier, qui a duré 3 mois, donc en effet, c'est 3 fois moins que le temps que va durer le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui commence. Les enseignements qu'on a tirés, c'est que, est-ce qu'on a appris des choses?
Oui,
certaines, par exemple, mais il y a aussi des grandes frustrations. Par exemple, à propos des armes dont parlait Sarah, eh bien, le trafiquant d'armes, par exemple, Claude Hermant, qui est venu à la barre en tant que témoin, il y avait une vraie incompréhension de la part des parties civiles qui se disaient, ces armes-là qui ont servi à tuer à Charlie Hebdo, à l'hypercachère, eh bien, finalement, il n'y a pas dans le box ce trafiquant, parce que donc l'enquête avait estimé qu'il n'était pas dans le box. Mais il y a eu des incompréhensions, il y a eu aussi des moments assez forts, moi je dirais, de rencontres entre les parties civiles qui, pour beaucoup, n'attendaient pas vraiment des accusés au départ. Et puis certaines sont venues, finalement, chaque jour. Et à un moment donné, quand certains accusés se sont levés et ont semblé émus par les témoignages très forts, très bouleversants des parties civiles à la barre, eh ben, on a eu l'impression que quelque chose s'est passé. Je crois que ça a pu apporter de l'aide à certaines parties civiles, même si pour d'autres, eh bien, elle considérait que certains accusés étaient enfermés dans leurs mensonges et que malgré tout, ce procès était insatisfaisant.
Question d'Arnaud au standard.
Oui, allô ?
Bonjour Arnaud, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, je vais être très bref parce que vous avez beaucoup d'intervenants. le procès va être filmé. Est-ce qu'on peut envisager qu'il soit diffusé dans les écoles assez rapidement, comme l'avait été le procès Claude Barbie, pour que les gens comprennent et que ce ne soit pas du voyeurisme ? Et qu'on puisse vraiment analyser ce qu'a été cette barbarie.
Sophie.
Alors, le procès est filmé, mais pour l'histoire, pour les archives. Donc, en tout cas, c'est pas du tout envisageable de le montrer dans les écoles pour l'instant. Il y aura une web radio, ça c'est totalement inédit, qui permettra aux parties civiles, 1800 parties civiles du procès, de suivre ces audiences, parce qu'évidemment, beaucoup des parties civiles ne pourront pas assister au procès pendant 9 mois.
Parties civiles, je traduis un peu rapidement, victimes.
Oui, voilà. Voilà, victimes, rescapées, proches de victimes, reconnues victimes par la justice. Mais non, pour répondre à cette question, il n'est pas envisagé de montrer les images de ce procès dans les écoles tout de suite.
Question ponctuelle, vous qui allez couvrir ce procès, pourquoi répéter encore et encore les noms des terroristes, nous dit cet auditeur? Cela vous rend complice de leur recherche de notoriété, peut susciter des vocations. J'imagine que c'est une question à laquelle vous pensez.
Alors, c'est vrai que depuis les attentats de 2015, c'est une question qu'on s'est souvent posée ici à France Inter. Parfois, les noms des terroristes sont donnés dès le départ dans l'enquête, par exemple, par le procureur antiterroriste ou par des hommes politiques, des ministres de l'Intérieur. À partir du moment où il est rendu public, c'est difficile pour nous, journalistes, de le taire. Par ailleurs, en fait, pour tous les accusés, en général, on donne les noms. Alors, est-ce que c'est leur donner une tribune, les rendre célèbres? Eh bien, c'est ce qu'on nous reproche. Et c'est vrai que ça peut exister. Par exemple, Mohamed Merah, les attentats de 2012, Mohamed Merah est devenu une icône pour beaucoup de djihadistes qui sont ensuite partis en Syrie. C'est une question qui se pose, mais en tout cas pour ces procès publics, eh bien, on donne le nom des terroristes là qui vont être jugés.
Et ça répond peut-être à la remarque, Jean-François Ricard dit, on juge des accusés pour lesquels il y a des charges, ce qui correspond à ce que nous disait Aurélia Gilbert. On juge aussi des cadres de l'organisation État islamique, Sarah, en leur absence. Quel sens ça a ?
Alors, effectivement, on peut se poser la question parce qu'ils sont en fait probablement morts. Je vais prendre le principal, Oussama Attar, c'est le commanditaire identifié dans l'enquête. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. En fait, il a très probablement été tué par une frappe de la coalition occidentale en Syrie en 2016 ou 2017. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais on n'en a pas...
2017.
Novembre 2017. Merci Aurélia. On n'en a pas la preuve formelle, c'est-à-dire que la justice n'a pas une trace d'ADN ou quelque chose. Et donc, c'est un peu une précaution, si vous voulez, parce qu'on a vu, c'est arrivé, des djihadistes qui faisaient croire à leur mort et puis qui réapparaissaient à Baoud l'a fait, par exemple. Hein. Donc, on va dire que c'est une précaution. En tout cas, ça ne changera pas tellement le déroulé du procès.
Mais ça permet d'avoir le puzzle complet, peut-être, de...
Alors, c'est pas ça le raisonnement, mais oui, de toute façon, ça va permettre aussi d'examiner le rôle de ce que les magistrats appellent la cellule OPEX de l'État islamique, c'est-à-dire de cette espèce de bureau des attentats, ça c'est la formule journalistique, ces cadres qui étaient à Raqqa chargés de planifier des attaques en Europe, et au sein de cette cellule, il y avait aussi des Français et des Belges.
Et Aurélia Gilbert, vous êtes ici aujourd'hui, vous avez participé au doc sur France Télévisions, vous allez suivre le procès pour Mediapart. Quel sens ça a pour vous de communiquer comme ça avec les médias et donc le grand public?
Écoutez, au début, moi, j'ai voulu me préserver de la médiatisation, avec tout le respect que je dois aux journalistes que je vois autour de la table et que j'apprécie beaucoup.
Là, vous avez deux très bonnes.
Pour des raisons aussi de sécurité. Oui. Il faut pas oublier que cette période aussi de procès est une période de risque de surattentat, on s'en cache pas. Mais j'ai une vraie volonté pédagogique et en parallèle, je travaille avec l'Association française des victimes du terrorisme, où je commence, comme beaucoup d'autres, à faire des interventions, soit en milieu scolaire, soit auprès de jeunes en difficulté, et je l'espère plus tard aussi en milieu pénitentiaire. L'idée, c'est de pouvoir porter la parole des victimes, mais pas de s'enfermer dans son rôle de victime. L'idée, c'est de pouvoir expliquer quelles sont nos attentes, quel est le rôle d'un procès, quel est le rôle de la justice, ce qu'on a vécu, lutter contre le complotisme, essayer de ramener aussi de l'humain dedans, oui, et faire en sorte, auprès de toutes ces différentes générations et des gens qui nous écoutent, que c'est pas manichéen, qu'un procès contre le terrorisme, c'est compliqué, que cette opération-là était particulièrement complexe, qu'il n'y a pas que Salah Abdeslam qui est un méchant dans la bande, comme je le disais, voilà, il y a beaucoup d'enjeux, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Merci à toutes les trois d'être venues dans ce studio, on suivra évidemment ce procès dès demain avec vous, Sophie, et avec Charlotte Piré, on fera un point régulièrement, tous les jours si nécessaire, et en tout cas un bilan chaque semaine de la tenue des débats. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le bureau de l'histoire en Chine?
Oui, un chroniqueur du 8e siècle à Pékin.
Et qui nous parle aujourd'hui. À tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton. Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi. Il a 17 ans, une tête bien faite et se bat pour que d'autres ne subissent pas ce que son frère a subi. Le trafic de drogue jusqu'à en finir tué. Et tout de suite, Frédéric Pommier. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Parmi les sorties cinéma de la semaine, demain, Délicieux, le nouveau film d'Éric Bénard, à l'affiche Isabelle Carré. C'est une comédie en costume qui nous plonge dans l'histoire d'un cuisinier du XVIIIe siècle.
En l'occurrence, l'histoire d'un certain Pierre Manseron, cuisinier d'un aristocrate, renvoyé pour avoir fait preuve d'un peu trop de liberté. Dans ses créations culinaires, le rôle est tenu par Grégory Gadebois. Quant à Isabelle Carré, elle joue le rôle de Louise, avec laquelle le dit Manseron va imaginer le tout premier restaurant.
Le personnage de Louise, c'est un peu un trois en un en fait. Elle se présente comme une confiturière et elle aimerait être apprentie d'un grand cuisinier, Manseron, malgré son âge et malgré le fait que les femmes n'ont pas droit à être en cuisine. Ça se passe juste avant la Révolution française, elles ont à peine le droit de faire une soupe et c'est tout. Donc c'est un personnage assez féministe, assez fort. Mais elle va se révéler peut-être autre chose, peut-être est-elle une prostituée finalement, ou à moins qu'elle ne soit une noble.
Vous vous sentez féministe également ?
Oh oui, c'est un mot noble, je trouve, pour le coup, et je suis touchée par l'élan que certaines féministes nous donnent, et toutes les avancées qui ont eu lieu avant, et j'espère continueront pour mes filles.
On en vient à la chanson.
On en vient à la chanson, bah, c'est une chanson justement qui parle de liberté. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower. It's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings.
Et c'est donc Freedom de Pharrell Williams qui a choisi de nous faire écouter Isabelle Carré.
Elle aime beaucoup Pharrell Williams, Isabelle Carré. Énormément ce titre-là, titre de 2015, dont le message à ses yeux évoque tout à la fois notre siècle et celui du film.
C'est une chanson que j'écoutais beaucoup sur le tournage en fait de Délicieux, parce que comme je vous le disais, c'est une époque particulière. À la fin du film, il y a un écrit qui dit « Trois semaines après, la Bastille tombait ». Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce vent de liberté ? Et le film parle bien de ça, du goût. Qu'est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on l'aime parce qu'on l'aime vraiment ou parce qu'on nous l'a imposé ? Est-ce que c'est je suis les diktats, est-ce que je me laisse faire? Alors voilà. Non, allons vers notre liberté, vers ce freedom là que crie Pharrell Williams, et allons vers les autres surtout. Sortons, arrêtons de rester chez nous à regarder notre plateforme et à se faire livrer des plats. Allons au cinéma, allons au théâtre, allons dans les restaurants et partageons des moments uniques, en fait, inoubliables. On s'en souvient bien plus d'un film quand on va le voir en salle que quand on le regarde de chez soi devant la télé.
Elle parle pas de cinéma, la chanson.
Elle parle pas de cinéma, elle parle de liberté, elle parle de sortir. C'est une chanson qui dit, allez, on prend les rênes en main et on arrête de se laisser conduire. C'est un élan et c'est une énergie et c'est une envie de vivre, en fait. And everyone...
Vous l'écoutiez dans quelles circonstances sur le tournage, cette chanson ?
Par exemple, quand mon corset me pesait un peu trop et que je me sentais un peu étouffée avec. Porter un corset pendant 10 heures par jour, tous les jours, pendant 2 mois, il faut l'avoir vécu dans sa chair pour se rendre compte qu'on revient de loin. Donc ça me faisait du bien d'écouter ça avec mon corset.
C'est une chanson qui fait danser ?
C'est une chanson qui fait danser et c'est une chanson qui met de bonne humeur. Il faudrait l'écouter tous les matins. I'm made of the same things.
Freedom, freedom, freedom,
freedom. Pharrell Williams, chanson qui met de bonne humeur. C'était donc le choix de la comédienne Isabelle Carré, Frédéric.
Isabelle Carré, que l'on retrouve dans Délicieux d'Éric Bédard. Le film sort dans les salles demain.
À demain, Frédéric Pommier. Le feuilleton Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, l'un de ces jeunes qui ont rencontré le président de la République la semaine dernière à Marseille. Feuilleton signé Mathilde Vinceneux. Amine a 17 ans, un bac mention très bien, l'envie de s'engager en politique. Pour l'instant, il a fondé son association Conscience dans ses quartiers nord de Marseille d'où il vient pour établir des liens avec les familles, éviter qu'il arrive à d'autres. Ce qui est arrivé à son grand frère Brahim, embrigadé dans le trafic de drogue jusqu'à en mourir, tué dans des conditions très violentes en décembre dernier. Dans cet épisode, Amine raconte à Mathilde Vinceneux comment Brahim a été embarqué dans ces trafics.
Ça a débuté vers la 4e au collège, parce que je me souviens que j'étais petit, maman me prenait avec elle parce qu'on l'avait appelé, parce qu'il n'était pas venu en cours pendant une semaine, parce qu'il s'était enfui du collège l'après-midi. Au quartier, les nouvelles vont vite. Donc c'est vrai que c'est maman qui l'a appris en premier. Un jour, elle rentrait des courses et puis elle l'avait vu assis en bas de l'immeuble. Puis elle lui demandait ce qu'il faisait là, donc il disait « je t'attendais parce que j'avais pas les clés », donc il est monté en même temps, et le lendemain elle avait recroisé, donc elle lui a fait le double des clés en lui disant « bah tu m'attends plus en bas, maintenant tu montes », et c'est vrai que c'est à partir de là où on a un peu compris dans quoi il était mêlé, malheureusement.
Qu'est-ce que ça voulait dire qu'il soit en bas d'une tour, assis sur une chaise devant un hall ?
Assis devant un hall sur une chaise en bas d'une tour, c'est les jeunes qui guettent, qui surveillent la venue des policiers et dès que les policiers sont là, ils crient « Ara, ara » pour prévenir les vendeurs, pour prévenir les dealers qu'il faut monter se planquer. Ensuite, avec sa façon de s'habiller, hein, bon, c'est vrai qu'on ne devrait pas mettre d'étiquette, mais il était tout le temps en survêt, je voyais qu'il avait tout le temps une nouvelle sacoche... ce genre de choses, donc c'est vrai que les indices sont rapidement venus. Il m'a ramené des jouets, et ça me fait encore rire aujourd'hui. Quand un jour je lui ai demandé « mais d'où tu ramènes ces figurines ?», il m'a ramené dans un parc, il m'a dit « dans ce parc, il y a des magasins qui viennent jeter des jouets, et je les ramasse ici ». Et moi j'y ai cru naïvement, et donc je lui disais à chaque fois « ramène-moi dans le parc, on va chercher des jouets ». Et c'est de là que j'avais compris qu'il se faisait son propre argent.
Elle est forte, la tentation ?
Très forte, hein. Dès qu'on se dit qu'on peut rester assis sur une chaise toute la journée et toucher presque 150 euros par jour, et puis la précarité est tellement grande, le sentiment d'inégalité, de se dire que on est très vite appelé à se responsabiliser ici, à porter un poids qu'on ne devrait pas porter, c'est-à-dire être le soutien familial. Il y a des familles ici où je sais que les jeunes de mon âge de 17 ans, c'est eux qui ramènent l'argent à la maison parce que le père est parti et qu'ils se sont retrouvés seuls. C'est vrai qu'il y a très très longtemps, je pensais que c'était bien d'avoir tout à proximité, d'avoir l'école dans le quartier, d'avoir le commerce. Mais je me rends compte, avec justement le vécu que j'ai et avec l'expérience que j'ai ici, qu'en fait, tout avoir dans un seul et même quartier, c'est pas bon du tout. Parce que justement, les jeunes qui vont à l'école, il y a le trafic de drogue à 500 mètres de l'école, à 50 mètres parfois. Donc ils sortent, ils voient leurs grands frères, ils voient leurs amis, les amis de leurs frères. Et c'est vrai que je le relève et c'est dramatique qu'il y a beaucoup de jeunes qui maintenant viennent rester à côté des dealers. L'autre jour, j'ai vu des jeunes, des enfants, ils devaient avoir tout juste 11 ans, 12 ans. Et ils sont venus mettre des chaises à côté des dealers, crier « Ara » quand ils crient « Ara » et boire des canettes avec eux. Donc ça commence comme ça. Et puis le lendemain, dès que le guetteur va le voir un peu plus grand, il va lui dire « Bon, bah, tu travailles avec nous et... » on grandit dans ce quartier, on voit que ça, on n'a que ça comme exemple et on est obligé de suivre la normalité du quartier.
Amine Kessassi avec Mathilde Vinceneux, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Comment écrire l'histoire? Comment le pouvoir aimerait qu'on écrive l'histoire? Nous allons en Chine. Tiens, une fois n'est pas coutume avec vous, Jean Lebrun, dans le vif. Le magazine L'Histoire de ce mois de septembre publie un long article sur un personnage singulier qui, en 710, 8e siècle, expliquait comment l'histoire aurait dû être écrite. Bref, on parle d'un débat du 8e siècle qu'on peut reprendre aujourd'hui au 21e.
L'histoire exige des artistes. Alors, de même que notre bureau des légendes forme en France des agents, en Chine, il y avait un bureau de l'histoire dans un lieu bien clos de la cité interdite qui formait des historiens, des agents de la bureaucratie céleste, une soixantaine de fonctionnaires peut-être, dont une moitié de copistes et dont le rôle capital était de constituer. Sur chaque règne, une sorte de mosaïque qu'ils composaient à partir des chroniques qui fournissaient leurs matériaux.
Je note que vous avez insisté sur le mot chronique.
Oui, alors les comptes rendus des audiences des souverains, les notes prises à cette occasion, les débats en leur présence. Alors, il se produisait tant de ces chroniques de cour qu'il fallait les polir et les resserrer à l'extrême pour qu'elles puissent prendre place dans la mosaïque d'un des traits, par exemple. Un dixième peut suffire pour en donner le sens, c'est ce que dirait aujourd'hui notre rédactrice en chef, Sarah Guibaudot, qui prône pareillement l'abrégé. Frédéric, les membres du bureau de l'histoire chinois étaient invités à indiquer après chaque texte, alors qu'ils allaient poser le pinceau, le nombre de mots enlevés ou ajoutés. Et les mots ajoutés étaient désignés comme des encombrants.
Sujet, verbe, pour les compléments, vous viendrez me voir, c'est ça. Ainsi parlait presque en 710 un membre du bureau de l'histoire, Liu Ziji, dont le nom nous est parvenu, un peu comme nous sont parvenus au fond les noms de Thucydide ou Tite-Live.
Alors Liu Ziji appartenait à un peloton, on l'a compris, mais un jour il s'est échappé et il a rédigé une lettre de démission qui a été miraculeusement conservée, puis un traité sur le thème « Comment aurait dû être écrite l'histoire de la Chine ?» imprimé beaucoup plus tard, traduite en français il y a peu d'années par Damien Chaussan, qui nous le résume dans le magazine « L'Histoire » de cette rentrée.
Et à part la concision, que prêche-t-il ?
La rectitude.
Oui, monsieur.
L'historien, selon le grand principe chinois de l'éloge et du blâme, doit distinguer le bien du mal. Par exemple, il est bien de nommer empereur le fondateur d'une dynastie légitime. Il est mal d'employer le mot empereur pour un usurpateur. L'histoire, c'est une magistrature et le magistrat doit choisir la voie droite.
Court et droit. La maxime, en effet, plairait à notre rédactrice en chef.
Et juste, dirait-elle. Parce qu'au début du 8e siècle, on est en 710,
elle est
déjà,
concernée, de l'autre côté de la vitre.
Ziji avait des raisons d'être mécontent de l'information qui lui arrivait. Il remarquait que la réalité telle qu'elle était retranscrite était comme anémiée par le conformisme. Chaque fois que nous devons relater, dit-il, un événement, nous gardons longuement notre pinceau dans la bouche et nous regardons les uns les autres avant d'utiliser les mêmes mots convenus. Un peu un portrait des journalistes de 2021. En même temps, ceux qui émettent de l'information parlent à tort et à travers, Aujourd'hui, on souhaiterait parfois que chacun reste dans sa fonction, le juge dans son cabinet, le ministre dans sa compétence, le médecin dans son hôpital. Au 8e siècle, Liu Ziji disait « Quand 10 moutons sont gardés par 9 apôtres, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ?» C'est pour ça qu'il a flanqué sa démission au bureau de l'Histoire.
Et c'est l'Histoire, le mensuel, qui lui consacre un article dans le numéro de septembre. Merci Jean Lebrun, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Où êtes-vous aujourd'hui avec Camille ?
Eh bien, je suis à Paris, Camille est restée à Marseille, et on va parler dans un instant de la pollution dans l'environnement des gens du voyage.
À tout de suite.